appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. En RDC, le Parlement devra adopter dans les prochains jours la loi organique relative au fonctionnement du Conseil national de suivi de l'accord, CENSA. À ce sujet, plusieurs personnalités ont donné de la voix et plaidé pour la proposition et l'adoption de cette loi par les deux chambres du Parlement en vue d'accélérer le processus électoral. Une certaine opinion estime que ces textes doit contenir essentiellement le rôle que doit jouer cette structure pendant cette période de transition. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 49 69 ou bien au 081 890 63 80 pour votre intervention en direct. Nico Kalambay est au standard de cette émission. Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Et cette émission vous est coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Dans l'accord inclusif, l'accord global et inclusif signé le 31 décembre, il est clairement dit dans le point 4, section 4, que le CENSA devra s'acquitter convenablement de ses tâches et à réaliser des évaluations régulières avec la CENI et le gouvernement autour du processus électoral. Nous avons en ligne Adrien qui nous a appelé de Kinshasa. Bonjour Adrien.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, c'est Adrien Monima, il n'y a pas de question de Chapa.
Quel est votre commentaire par rapport à cette thématique?
Je vous remercie d'abord d'avoir l'honneur que j'ai d'être le premier auditeur pour l'émission d'aujourd'hui. Nous sommes vraiment préoccupés par ce thème, tout simplement parce que nous savons que le Conseil national de suivi de l'accord est une structure qui est issue de l'accord du 31 décembre 2016 qui encore peine à être appliqué. Alors notre inquiétude se pose au niveau où cette structure, n'est-ce pas, de surveillance, ou on peut appeler des satellites de l'application de l'accord, doit être soumise à une loi. Parce que nous savons très bien que la majorité des députés au Parlement sont les membres de la majorité présidentielle. Alors si cette structure qui doit provenir nécessairement de l'opposition, l'antipode de la majorité, doit être soumise à une loi, nous craignons fort que cette structure puisse exercer librement ses prérogatives. Par ailleurs, nous pensons que l'accord a déjà fixé le rôle, déjà. D'ailleurs, vous-même dans le préambule, vous l'avez déjà relevé, le rôle de cette structure est déjà précisé par l'accord lui-même. Alors, pourquoi soumettre encore cette structure à une autre loi spéciale qui encore doit respecter tous les contours parlementaires ou législatifs, je ne sais pas. Nous pensons tout simplement que ça, ce n'est pas une bonne idée parce qu'actuellement, le problème qui se pose, ce n'est pas le mode de fonctionnement de la structure, mais ce sont les animateurs même de la structure qui n'existent pas encore.
Ben alors, si je pourrais peut-être vous faire une idée sur ce qui a été décidé au niveau de l'accord global inclusif du 31 décembre, que le CENSA devrait assurer le suivi du chronogramme de mise en œuvre de l'accord, réaliser des évaluations régulières du processus électoral au moins une fois tous les deux mois avec la CENI et le gouvernement, 3, communiquer régulièrement sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord, 4, formuler donner les recommandations respectivement au Parlement et au gouvernement et à la CENI pour la bonne exécution de l'accord. 5. Assurer le règlement d'éventuelles divergences nées de l'interprétation de l'accord. 6. Se concerter avec le gouvernement et la CENI afin d'harmoniser les vues quant à la réussite du processus électoral. Et 7. Élaborer son règlement intérieur sous réserve de sa conformité à la Constitution. Et 8. Enfin, apprécier consensuellement le temps nécessaire pour l'achèvement des dites élections. Alors, d'aucuns estiment que à cela, on devrait peut-être ajouter d'autres, préciser certaines choses, notamment les caractères aussi contraignants que doit revêtir ces suivis. Sinon, ça serait que des théories. Est-ce que vous partagez cet avis?
Mais le cadre, JR, c'est ça le problème. Le cadre, qui doit fixer? Ce n'est pas le Parlement. Parce que déjà, l'accord, la structure même, c'est une structure qui est extra-constitutionnelle. Dans la Constitution, il n'y a pas une structure qui est appelée Conseil. C'est par rapport à la crise. Et par rapport à cette crise, les deux protagonistes se sont mis ensemble autour de la CENCO pour essayer de trouver des structures qui peuvent jouer de contrepoids, n'est-ce pas, de la majorité. Mais lorsqu'on doit soumettre cette structure qui doit jouer de contrepoids encore à l'appréciation du Parlement, moi je pense que c'est déjà une peine perdue. Et en plus, vous avez été déjà très long, 8 points, et tous ces 8 points, c'est déjà le contenu de la loi qui peut-être pour eux venir. Alors nous nous demandons, qu'est-ce que cette loi va venir encore résoudre? Parce que le problème aujourd'hui, je me répète, ce n'est pas le fonctionnement de la structure, mais c'est d'abord les animateurs. Nous avons suivi le chef de l'État dernièrement. Il a encore relevé le point que, au-delà, n'est-ce pas, déjà des termes de l'accord, il faut un consensus. Alors, quand on ajoute le terme consensus, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on ne peut plus appliquer l'accord qui n'est pas encore clôturé jusque-là, nous rappelons. Il faut encore revenir sur les termes qui désignent, n'est-ce pas, le président du Conseil.
Merci beaucoup, Adrien. Mais il y a quand même un aspect à soulever. C'est la compréhension de tous par rapport à cette institution d'appui à la démocratie. On sait que, disons, une institution d'appui à la démocratie donne une dimension citoyenne au processus de transition. Et là, pour les cas d'espèce, c'est bien défini que le CENSA doit accompagner la CENI et le gouvernement pour l'organisation en vue de l'organisation des élections.
Vous avez raison. Mais aussi, parce que le problème qui se pose, c'est que la CENSA doit être dirigée par l'opposition. C'est pourquoi le seul cadre qui devrait fixer les règles, ce n'est que l'accord.
Donc,
ce n'est
que le dialogue. Alors, à quel niveau devons-on respecter la Constitution dès lors que les parties prenantes à cette discussion se sont engagées à respecter la Constitution? Là, je vous renvoie à la lecture du chapitre 2 de cet accord global et inclusif. Le respect de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié en 2011.
Monsieur le journaliste, c'est ce qu'on appelle la théorie inutile. Lorsque vous vous retrouvez déjà dans le dialogue, c'est-à-dire que la Constitution est d'office mise à part. Aujourd'hui, tous les débats qui se passent, c'est parce que la Constitution n'est pas respectée. Dans la Constitution, il n'y a nulle part où on dit qu'il faut dialoguer et créer des structures. C'est parce que la Constitution n'a pas été respectée qu'il y a eu un cadre bien spécifique, bien sûr, pour, n'est-ce pas, la paix et le rétablissement de l'ordre. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne doit plus dire qu'il faut respecter la Constitution. Non, tout est en train de marcher selon un consensus qui s'appelle le dialogue.
Merci beaucoup, Adrien, d'avoir appelé de Kinshasa. Vous estimez que le fait que la direction de César revient à l'opposition, vous ne trouvez pas d'importance qu'une loi, l'importance d'une loi organique statuant sur le fonctionnement de cette structure. Dès lors que tout a été déjà bien défini lors des discussions entre les deux parties, les parties prenantes, donc à dialogue, pour fixer les termes de référence de cette structure d'appui à la démocratie. Merci beaucoup, Adrien. On va prendre Alain Bolodjoie qui nous a rejoint également. Alain, bonjour.
Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à vous.
Oui, quelle est votre réaction à Alain Bolodjoie après avoir suivi Adrien, qui n'est pas d'avis que cette loi, disons l'existence ou la proposition ou l'adoption de cette loi organique?
Bon, en le suivant, on sent qu'il est sincère dans ce qu'il dit. Mais malheureusement, il a raté tout un chapitre par rapport à ce qui s'est fait et ce qui doit se faire. nous ne sommes pas dans une transition telle que nous souhaitons le dire. Nous sommes dans une situation de continuation qui reconnaît la primauté de la Constitution sur l'accord. Parce que l'accord lui-même fait référence à certaines dispositions constitutionnelles. Ce qui sous-entend que tout ce qui a été pris comme option ou levé comme option au niveau de l'accord doivent être formalisés, c'est-à-dire les adapter conformément à la Constitution. Et la création de la CENSA a trouvé un socle au niveau de la Constitution, c'est l'article 222 de la Constitution qui reconnaît la latitude au législateur de proposer ou carrément de donner à l'État certains organes d'accompagnement qui permettront à l'État de bien fonctionner. Et c'est dans ces cadres-là que la CENSA doit se créer. Et comme la CENSA doit se créer, jusqu'à preuve du contraire, la CENSA n'existe pas encore. Parce que bien que l'accord a fait allusion à cette organisation, mais cette organisation doit se créer conformément à la Constitution. Naturellement, on doit envoyer un projet de création, portant organisation et fonctionnement. Et la CENSA, c'est aux députés de lever les options et de faire en sorte que ce qu'ils vont proposer comme loi ne soit pas en contradiction avec l'accord. Et c'est comme ça qu'on doit encourager les députés à mettre l'accent sur le respect de certaines dispositions de l'accord, tout en gardant la philosophie de la Constitution. Alors, ce qui doit être fait de mon point de vue à ce stade, c'est d'abord sensibiliser la population, faire voir à la population la démarche que nous avons eue à enclencher. Aujourd'hui, il est clairement établi que l'accord était d'abord un fait privé. Le fait que le chef de l'État a endossé les dispositions de l'accord, ça devient sa feuille de route. Ayant amené cette feuille de route au niveau du Parlement, réuni en Congrès, cela sous-entend que c'est sa nouvelle vision. Et ce qui va se faire, c'est lui qui doit endosser la responsabilité, parce que c'est le chef de l'État qui est reconnu par la Constitution, ce sont le Parlement, Assemblée nationale et Sénat qui sont reconnus par la Constitution, ce sont le cours des tribunaux, le gouvernement qui sont reconnus par la Constitution. Mais les membres de la CENSA, bien qu'ils seront nommés par le chef de l'État, auront un pouvoir limité dans le temps et dans l'espace. Ils ne sont pas chargés de gouverner la République, ils ne sont pas chargés d'occasionner des chevauchements dans les actions ou carrément de s'ériger en superstructure au sein de l'État. C'est une structure d'accompagnement du processus par rapport à la nouvelle vision adoptée par l'État partant de la signature de l'accord du 31 décembre.
Oui, Alain, parce que vous parlez d'une situation de continuité et non d'un contexte de transition, parce que si je reprends exactement in extenso vos propos, nous sommes pas dans une transition, nous sommes plutôt dans un contexte de continuité de l'État. Et là, vous avez lié l'existence de CENSA à l'article 222 à alinéa 3 de la Constitution, qui au fait exige qu'on puisse mettre en place une institution d'appui à la démocratie chargée de suivi de la mise en œuvre de l'accord. Mais alors, pour les cas d'espèce, parce que nous ne sommes pas en transition, nous sommes dans une continuité, comme vous l'avez dit, est-ce que devons-nous encore parler d'une institution d'appui à la démocratie?
Bon, c'est une institution d'appui à la démocratie par le simple fait que, partant des réalités sur le terrain conjoncturel, on met en place une structure qui est, de mon point de vue, une structure ad hoc. Parce que si on prend en termes de durée, l'existence de la CENSA est liée à la mise en application de l'accord. Dès lors qu'il y a élection, cette structure n'a plus sa raison d'être. Elle doit disparaître avec la tenue des élections. Donc ce qui sous-entend, c'est que c'est une option conjoncturelle que nous avons pu lever au niveau de la classe politique qui va nous permettre de garantir les uns des autres de l'application de l'accord. Comme l'accord avait comme socle la tenue des élections, voilà pourquoi on a créé une structure d'accompagnement. Et cette structure d'accompagnement est liée à l'accord. Or, l'accord, en termes de durée, le 31 décembre n'a plus sa raison d'être. Toute chose restant égale par ailleurs, le 31 décembre de cette année, l'accord n'a plus sa raison d'être. Voilà pourquoi je dis, dans les options levées, on a parlé d'un gouvernement de très large union nationale, Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer la nomination du premier, le nouveau Premier ministre. Mais aussi, il y a un autre organe qui est chargé de veiller sur l'exécution, fidèlement de l'exécution de l'accord. Et cet accord, cette structure, c'est la CENSA.
Donc, voilà. Est-ce que Alain Bolodjo, vous
ne peut pas se situer à la CENI.
Est-ce que Alain Bolodjo
ne peut pas s'ingérer sur des questions techniques de la CENI. Elle doit se contenter des informations lui fournies par la CENI et par le gouvernement et orienter la politique du gouvernement. Parce que la CENSA peut avoir le pouvoir sur le gouvernement et nullement sur la CENI, qui est un organe indépendant.
Alors, est-ce que vous estimez, comme les autres, que aujourd'hui les discussions qu'il y a eu au niveau de la CENCO et les termes de référence tels que énoncés dans l'accord global et inclusif en ce qui concerne le CENSA, sur le 8 points que je venais d'ailleurs de dire, tirés de chapitre 4, donc le point 4 de section 4 de cet accord, qui donne les termes de référence de cet accord, en tout cas, ce ne sont pas complets. Les termes ne sont pas au complet. Il va falloir repenser pour donner aussi un caractère un peu contraignant à cette structure.
Non, mais la CENSA ne peut pas avoir un caractère contraignant. La CENSA doit être considérée comme une structure consultative et non une structure de décision dès lors que cette CENSA va traiter sur une question qui relève d'un autre organe indépendant, c'est la CENI. Il n'y a que la CENI qui a compétence de décider en dernier ressort sur l'exécution
du calendrier.
De la vision des élections. Le gouvernement est chargé de financer. Alors la CENSA, pour avoir un caractère contraignant, il doit être au-dessus du gouvernement et au-dessus de la CENI. Parce qu'on ne peut pas être une structure parallèle ou une structure
et jouer le rôle du Parlement.
En même temps avoir un caractère contraignant. Si on doit donner un caractère contraignant, c'est dans la dimension politique. Comme les membres de la CENSA auront un pouvoir moral sur le membre du gouvernement, c'est à ce stade-là, c'est dans ces dimensions-là politiques qui peuvent influer sur les options à lever au niveau du gouvernement. La CENI n'est pas liée directement à l'accord de 31, c'est plutôt le gouvernement qui doit être mis en place qui est lié à la CENSA, et non la CENI. Et la CENI viendra pour donner les informations, quitte aux membres du gouvernement d'orienter, ou aux membres de la CENSA d'orienter l'action du gouvernement pour faciliter à la CENI de mettre en application son objectif qui est l'organisation des élections.
Alors comment commentez-vous, parce qu'on va terminer avec vous en attendant, avant d'avoir Général Valérie, le point 4 de termes de référence de CENSA, tel qu'énoncé au niveau de discussion au centre interdiocésain, que la CENSA doit formuler les recommandations respectivement au Parlement, au gouvernement et à la CENI pour la bonne exécution de l'accord.
Bon, ce qui est vrai, toute disposition de cet accord qui va à l'encontre de la philosophie de la Constitution est supposée non écrite. Dès lors qu'il y a une disposition dans l'accord qui violente les dispositions constitutionnelles, on doit supposer que ça n'a pas été écrit.
Alors vous estimez que cette disposition...
C'est la classe politique qui doit donner de l'assistance à cette organisation en respectant la vision
de la cause
que doit dégager non les organes de l'État. Ni le gouvernement, ni la CENI n'ont le droit de se laisser faire par la CENSA. C'est plutôt les membres du gouvernement qui sont liés à l'accord et non le gouvernement, encore moins la CENI.
Alors, si je comprends bien cette disposition pour vous et sans objet, au fait, c'est des structures indépendantes, le CENSA ne doit pas faire des recommandations auprès du gouvernement ou de la CENI. Merci beaucoup Alain Bolodjo d'avoir appelé de Kinshasa. Ingénieur Valérie, vous êtes à Kindu, bonjour et bienvenue.
Bonjour JR, je voudrais commencer par le commencement, si vous me permettez la tautologie. De toutes les façons, j'ai entendu mon prédécesseur dire que nous sommes dans la continuité de l'État, je ne sais pas. À mon humble avis, j'estime que nous sommes dans une transition. D'autant plus que la Constitution n'est pas totalement appliquée dans sa forme traditionnelle. Donc là, moi, je me dis, nous sommes dans une incise. Voilà même que nous avons un gouvernement qui n'est pas issu de la majorité parlementaire ou de la coalition. À ce moment-là, je peux dire que nous sommes dans une transition. D'où toutes ces exceptions telles que on doit même créer des CENSA, tout ça. Alors, Ainsi, la CENSA découle de la non-organisation des élections. Maintenant, parce que la CENSA ne fait pas contre un électron libre, elle doit entrer dans les concerts des institutions qui sont liées à la vie intime du peuple congolais. Voilà pourquoi j'estime, à mon humble avis, que la loi est tout à fait nécessaire d'être votée et adoptée par l'Assemblée nationale, disons par le Parlement, tel qu'il est recommandé. Mais seulement je me plains d'une chose, c'est laquelle. J'aurais bien voulu que l'accord soit d'abord totalement mis en œuvre, que le même CENSA puisse aussi participer à l'élaboration de cette loi. Parce que n'importe qui peut élaborer la loi, mais pour la défendre à l'Assemblée, c'est par là qu'on doit passer par un député national ou par un sénateur, s'il faut qu'elle commence soit à l'Assemblée nationale ou bien au Sénat. Pourquoi ? Les lois sont efficaces lorsqu'elles ont connu la participation et de ceux qui vont contrôler et de ceux qui vont les appliquer. Si le CENSA était déjà s'y installer dans de bonnes conditions, sans pour autant que nous soyons dans une agitation où les uns se boudent les autres, le CENSA devrait traiter avec la commission PAJ de l'Assemblée nationale et du Sénat, selon les tours, selon les moments auxquels la loi devrait se retrouver au Sénat ou bien à l'Assemblée nationale. Discuter avec. Par après, la loi devrait être défendue. De cette manière, on devrait avoir une loi qui cadre de manière neutre avec l'exécution de tâches qui lui sont, disons, assignées. Mais j'ai l'impression que nous avons commencé avec un climat de triomphalisme, avec la majorité parlementaire de la majorité présidentielle que nous avons. On risque encore de se retrouver dans un contexte de triomphalisme de telle manière que le CENSA ne sera pas dans une bonne position de bien exécuter ses tâches. C'est pourquoi je me dis, l'idée, elle est normale. Mais j'insiste beaucoup sur les cadres de conception. Je trouve que les cadres biaisés par rapport à la manière dont nous sommes partis. Alors, on met ma contribution.
Voilà, merci beaucoup. Pour vous, les cadres biaisés, les cadres de conception, il a été question, en tout cas, selon votre souhait, que le membre de CENSA soit associé même à ce débat sur la conception de cette loi organique relative au fonctionnement de cette structure d'appui à la démocratie. Merci beaucoup, ingénieur Valérie. Est-ce que Sylvain partage cet avis? Vous êtes à Bounia, Sylvain. Bonjour et bienvenue.
Merci beaucoup pour m'avoir associé à cet échange, monsieur Gère. En fait, je voudrais d'abord dire que face à un climat de méfiance généralisée entre les acteurs politiques de mon pays et aussi compte tenu d'un comportement et attitude qui reflète un niveau de conscience trop bas de nos acteurs politiques aujourd'hui, je pense qu'il faut d'abord appeler les uns et les autres à l'apaisement. Puisque lorsque nous considérons la situation politique de ces pays avec un grand peuple qu'on appelle le peuple congolais, il semble que les gens oublient l'histoire politique de ces pays. Et il me semble aussi qu'on a oublié, n'est-ce pas, les sacrifices de nos héros, je cite Patrice Emery Lumumba. Alors, j'apprête un peu la voix de mon prédécesseur, l'ingénieur Valérie, pour essayer un peu d'attaquer la réflexion de mon frère Alain Bolodoua, qui croit qu'aujourd'hui nous sommes dans la continuité de la gouvernance de cet État. Et puisque je voulais avoir d'entrée sur ce débat du Conseil national de suivi des accords du 31 décembre 2016, il me paraît que beaucoup fait la confusion sur la situation politique de ces pays. Lorsque nous lisons notre constitution, les articles 73, 74, 75, il faut dire que l'accord du 31 décembre 2016 est venu mettre une suspension dans l'application de notre constitution. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que nous sommes dans la continuité normale de la gouvernance de ces pays. Et lorsque je vois même la résolution, la dernière, du Conseil de sécurité des Nations Unies,
Sylvain, je crois que nous aurons peut-être pas la même perception des choses, hein, parce qu'en lisant l'accord global du 31 décembre, même au niveau de son préambule, on se rend compte que les parties prenantes aux discussions se sont engagées à respecter la Constitution. Et d'ailleurs, c'était le débat d'ouverture, c'est-à-dire la compréhension du respect de concept, respect de la Constitution, et ils se sont mis d'accord pour respecter la Constitution en ces articles du début du premier jusqu'à la fin.
Oui, c'est un accord, monsieur Gère, en matière des accords
que ce soit des accords nationaux, internationaux ou régionaux. En fait, tous ces accords doivent être basés, n'est-ce pas, sur les textes qui a la primauté, sur tous les textes qui régissent un État, une société. Ça, c'est tout à fait naturel. Mais maintenant, dans les faits, et je dis bien la lecture de la Constitution, il faut savoir de quoi je parle. À ce niveau-là, il faut rattacher la lecture à la pratique. Nous disons que notre Constitution est à suspension. Maintenant, je rentre sur la question du Conseil national des suites des accords. Monsieur Gère, la question est très bien posée. L'Assemblée nationale doit aujourd'hui doter ce Conseil d'un texte qui régit son fonctionnement. C'est ça la question. Que doit être fait? Je situe le débat à trois grands niveaux. Le premier niveau, il le faut que ce texte qui va régir le Conseil national des suites des accords du 31 décembre 2016 dote cette institution des capacités de son indépendance de fonctionnement. Ça, c'est de S. C'est mon point de vue. Je vais le justifier. Deuxième chose, il le faut que le Conseil national de suivi des accords soit à même de contrôler les actions des institutions politiques qui fonctionnent en dehors des cadres de notre Constitution pour que nous allions aux élections selon les termes de notre Constitution. Et là, je me marie à vos crédits. Troisième élément et le dernier. Il le faut que dans le fonctionnement ou dans le management de ce Conseil national de suivi des accords, l'institution soit à même de fonctionner sur l'ensemble du pays. Pourquoi? Puisque lorsqu'il faut analyser les niveaux d'exécution des recommandations des accords, de cet accord, à tous les institutions du pays, il faut que cela se fasse sur l'ensemble du pays. Puisque le plus souvent, monsieur Gérard, souvenez-vous que nous venons d'une histoire récente, n'est-ce pas, du gouvernement R+4, après Sun City. Donc, nous avons de quoi confondre le Congo à la ville de Kinshasa. Et nous n'avons jamais réussi à évaluer correctement les niveaux ou les leviers de gouvernance, et le plus souvent nous sommes allés dans la violence. Donc j'espère qu'aujourd'hui, dans la dotation du Conseil national de suivi des accords de ce texte, qu'on oublie ces éléments importants, j'insiste sur le fait qu'on sacralise son indépendance vis-à-vis des institutions politiques de ce pays par des principes clairs où l'institution doit être à même de contrôler avec efficacité les actions du gouvernement d'abord, du Parlement et de l'institution présidente de la République. Et je crois que, d'une manière générale, les cours des tribunaux doivent avoir des redevabilités à ces conseils pour ne pas dire ce que les conseils doivent être indépendants. Voilà ce que moi je pense.
Merci beaucoup, Sylvain. 081-890-4969 ou encore le 081-890-6380 pour votre intervention en direct.
Congolaises et Congolais, l'enrôlement des électeurs tire à sa fin. Faites-vous enrôler dans le centre d'inscription de la CENI le plus proche de votre habitation, dans votre commune ou dans votre groupement.
Peut-on se faire enrôler dans n'importe quel centre d'inscription de son choix?
Non. L'électeur doit se faire enrôler uniquement au centre d'inscription le plus proche du lieu où il habite, à l'intérieur de sa commune ou de son groupement. En effet, on vote là où on s'est fait enrôler.
J'ai ma nouvelle carte d'électeur, je voterai, et toi?
Parole aux auditeurs.
Nous poursuivons avec parole aux auditeurs avec vous, notre invité, honorable Laurent Batumona. Vous êtes avec nous en ligne. Bonjour, honorable.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, vous êtes un homme politique, vous venez de suivre cette série des auditeurs, mais je prends juste le dernier qui a fait trois propositions, en tout cas selon son entendement. Le texte qui doit normalement être, qui doit être élaboré au niveau du Parlement, doit doter cette institution d'appui à la démocratie, de capacité de son indépendance vis-à-vis d'autres institutions. Et le CSA doit avoir aussi cette capacité de contrôler d'autres institutions. Et enfin, qu'elle soit représentative, donc au niveau de l'ensemble du pays. Comment vous réagissez, vous, personnellement, honorable?
Oui, merci de m'avoir associé à cette émission qui me semble très, très importante. D'abord, il faut noter que par rapport au chef de l'État, quand il est allé proposer au niveau du Parlement, du Congrès, qu'une loi devait être adoptée pour la mise en œuvre de l'accord, à mon avis, il a violé l'accord, parce qu'il a fallu d'abord faire adopter les animateurs qui étaient proposés. Et par la suite, les animateurs devaient commencer à élaborer les textes. Et enfin, ça devait aller au Parlement. Donc là, il a mis la charrue avant les œufs pour dire qu'il devait commencer par les animateurs avant d'aller au niveau du Congrès. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, en cherchant l'appui du Parlement, ça signifie qu'il veut faire inclure la notion de la consensualité qu'il a toujours recherché pour éviter les problèmes réels qui se posent au niveau de la nomination. Et je peux dire que c'est une institution d'après la démocratie qui a été créée en vertu de l'article 222 alinéa 3 qui doit faire le monitoring du processus électoral. Aujourd'hui, la CNE est en train de travailler. Il va arriver pratiquement à la fin des enrôlements. Mais aussi longtemps que le CNE ne sera pas installé, donc la CNE est en train de naviguer seul dans ce processus, alors que les parlementaires ainsi que le CNE devaient l'accompagner pour que le processus puisse aller à bon port. Mm-hmm. Voilà ce que je peux dire.
Quand vous évoquez la violation de la Constitution, c'est vrai, je crois qu'à un certain niveau, vous avez déjà lu de manière un peu intégrale cet accord. Bon, je ne sais pas peut-être si c'est une mauvaise interprétation de notre part. Au bas, en tout cas, de chapitre 2 ou de chapitre 4, pardon, de cette... voilà, non, c'est plutôt le chapitre 5 sur le mécanisme de suivi de l'accord politique et du processus électoral. Il est clairement dit qu'une loi organique sera proposé par le Parlement en vue d'institutionnaliser le CNSA. Donc, ce n'est pas nouveauté, ce n'est pas une disposition qui a été proposée par des personnalités politiques, encore moins par le chef de l'État. Donc, ce sont des parties prenantes au dialogue qui avaient déjà décidé qu'une loi organique soit proposée par le Parlement en vue d'institutionnaliser le CNSA, monsieur Laurent Batumona.
Monsieur le journaliste, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le chef de l'État est en train de violer l'accord, pas la Constitution. Il est en train de violer l'accord en mettant la charrue avant le bœuf. Donc, au lieu qu'il puisse commencer à adopter les animateurs que nous sommes en train de proposer, il a voulu recourir au Parlement pour faire introduire la notion de la consensualité qui est chère à la majorité présidentielle. C'est ça qui fera que les animateurs qui seront proposés, admettons, par le Rassemblement, ne pourront pas arriver à obtenir la satisfaction du camp de la majorité. C'est pour dire que si le chef de l'État, il aime bien son pays, il aime bien le peuple que nous sommes, il doit commencer par la nomination des animateurs. Et la loi pourra suivre par la suite. Voilà ce que je voulais dire à ce stade. Et au niveau des éléments qu'on vient de donner, notre dernier interlocuteur, il a raison de dire que le CNSA doit avoir des capacités indépendantes. Ça signifie qu'il doit faire le monitoring du processus électoral et aussi proposer. S'il y a des rapages, quels sont ? Il est les garde-fous.
Oui, je crois qu'à ce niveau, il faudrait quand même éclairer un peu la lanterne des uns et des autres. C'est le monitoring du processus électoral ou bien le monitoring pour l'application de l'accord global inclusif signé le 31 décembre.
C'est le monitoring. Ce qui nous a amené à la CENCO, c'est d'abord le processus électoral. Mm-hmm. C'est ça qui nous a amené à la CENCO. Et pour dire que comme le chef de l'État n'a pas pu organiser les élections en tant que chef du gouvernement, voilà pourquoi il a été proposé que les animateurs gouvernementaux puissent être nommés d'abord et le processus électoral va se poursuivre par la suite.
Voilà, merci beaucoup honorable Laurent. Nous vous gardons en ligne. Le temps d'accueillir les auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. William, vous êtes à Kinshasa. Bonjour William.
Oui, Oui, bonjour JR. Je suis heureux que je sois intervenu pour la première fois sur votre émission.
Je vous en prie. Alors, quelle est votre contribution? Parce que vous avez suivi les uns et les autres Alain Bolodjoua qui a dit nous sommes plus dans une transition, nous sommes plutôt dans une continuité de la chose, dans un contexte de continuité. Et Sylvain qui a même proposé que la loi qui sera votée puisse donner ou doter le CNSA de toutes ses capacités d'indépendance vis-à-vis d'autres institutions, mais qu'il joue réellement le rôle de monitoring qui doit, au fait, surveiller plusieurs institutions à la fois.
Non, ben écoutez, du coup, je n'approuve pas M. Alain Bolodjoua sur ce point précis. On est loin de la situation normale. C'est-à-dire, la constitution congolaise actuelle est mise, du moins dans certaines de ses dispositions, entre parenthèses. Elle est mise entre parenthèses sur certaines de ses dispositions. Et dans le cas d'espèce où nous nous trouvons, nous avons un peu, pour ainsi dire, dérogé à certaines dispositions de notre corps en mettant sur pied la CNSA. Bon, maintenant, je précise que M. l'honorable Batoumona a un peu défloré mon sujet sur cette question, car il a dit que le président de la République a pu déroger, enfin, a manqué un peu à l'accord. Quand il a commencé par envoyer, il propose, enfin le président propose d'envoyer les textes d'abord, que ça fasse la navette
l'objet entre l'Assemblée nationale, oui.
Et que par la suite, ça puisse revenir. Cette navette-là, ça prendra du temps. Il aurait mieux fait de commencer par mettre sur pied la CESA. On en connaît déjà les animateurs. Et par la suite, on pourrait voir le règlement intérieur surtout. On peut qu'on pourrait commencer à fonctionner. On connaît les animateurs, le règlement intérieur est conçu. Et par la
j'imagine Willy, je ne sais pas, c'est j'ai dit des choses comme ça qui me passent par la tête. Oui. Le fait que d'ailleurs la direction de CESA a été attribuée à feu Étienne Tshisekedi wa Mulumba, intuito personae. Donc le fait que aujourd'hui il ne soit plus en vie. Et ça fait encore l'objet des consensus, et c'est ce qui a compliqué un peu. Et pour trancher, pour couper la poire en deux, je crois que la démarche, pour ne pas s'interniser dans des discussions inutiles où les gens ne se mettaient pas d'accord sur les consensus, alors il fallait d'abord préparer la loi et définir les profils, et ensuite on met en place la direction de cette institution.
Yes.
Vous ne trouvez pas que c'est plus réaliste?
Bon, non, ça ne me paraît pas réaliste. Ça prendrait du temps, monsieur Gilles, croyez-moi. Même certains de vos auditeurs qui me croient, ils doivent me donner raison. Ça prendrait du temps. La navette, que ça fasse. Et d'ailleurs, quand vous lisez le calendrier des matières inscrites dans les deux chambres, on n'a pas encore inscrit cela. Et le gouvernement, s'il était de bonne foi, il aurait pu envoyer un projet de loi qui devait se traiter à titre prioritaire. Voyez-vous, il n'a pas fait. Et maintenant, il propose que ça prendrait combien de temps le JR? Je vous dis que ça durerait toute une éternité et vous m'en donnerez peut-être raison un jour. Ça, je vous le dis. Oui.
Oui, donc vous souhaiterez qu'on puisse vous donner raison dans les jours à venir, alors wait and see, mais du moins on sait que dans les discussions, les parties prenantes au niveau de centre interdiocésain se sont engagées, en tout cas ils se sont mis d'accord que cette loi organique soit proposée par l'Assemblée nationale et le Sénat.
Oui, certes, j'en conviens parce que c'est la volonté des partis au nom de l'autonomie de la volonté, comme disent les juristes, j'en conviens, ils peuvent le faire, ils ont convenu de cela. Mais moi, je trouve que on aurait pu parer au plus pressé, c'est-à-dire nommer les animateurs, désigner les animateurs, hein, et ensuite qu'ils conçoivent le règlement intérieur et qu'ils trouvent que ces derniers soient conformes à la Constitution, sous réserve de Constitution, comme on l'a dit. Et là, la suite pourrait, la logistique suivra, voilà. Maintenant qu'on a pu, on commence par où on devait terminer, voyons voir. Et nous allons voir ce que. Et je sais que le consensus, ce serait vraiment chercher le foin dans une boîte de foin. Hein. Ce serait quelque chose dans une boîte de foin. Dans une boîte de foin, je veux dire. Alors,
voilà,
le consensus serait vraiment une aiguille à chercher dans une boîte de foin.
Voilà, merci beaucoup. Alors, je vous renvoie, William, à lire quand même l'accord global inclusif signé le 31 décembre en son chapitre 5 relatif au mécanisme de suivi de l'accord politique et du processus électoral lorsqu'il est dit en attendant l'adoption en procédure d'urgence de la loi organique. Cette structure est mise sur pied et fonctionne sur la base de présent accord.
Ah, merci beaucoup.
Félicien, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue.
Bonjour, Gérard. Bonjour à tous les auteurs de Radio Okapi et bonjour aussi à l'invité.
Vous avez la parole. Quelle est votre contribution, Félicien?
Ah oui, moi j'ai des difficultés à comprendre ce qui se passe dans ce pays et en entendant ceux qui m'ont précédé, j'aimerais savoir, pour me préciser un peu, nous sommes dans quel système politique actuellement ou dans quel régime politique depuis le 19 décembre jusqu'à aujourd'hui. Parce que on n'a pas pu organiser les élections pour une raison ou une autre. On a voulu aller dans les dialogues et on a eu un accord. Et au lieu de nommer les animateurs immédiatement, on dit non, il faut d'abord l'arrangement particulier. Et l'arrangement particulier traîne et nous voyons qu'on nomme un premier ministre qui ne vient même pas de là où il devait venir. Et nous sommes en train d'aller, puis aujourd'hui on parle de la CENSA, il faut une loi qui doit aller au Parlement, et puis.
Oui, Félicien.
Oui, Félicien. En décembre 2017, ou bien c'est pour une autre date au-delà de décembre 2017. Moi, je pense que l'opposition devrait se rendre à l'évidence qu'elle a commis une erreur d'accepter le dialogue et qu'aujourd'hui, comme l'a dit Alain Bolodja, donc nous sommes dans une continuité, on devait laisser la majorité continuer, lui donner une chance d'organiser des élections qu'il a raté à organiser en 2016, qu'il les organise en décembre 2017. C'est parce que ce qui intéresse les Congolais, c'est les élections, mais pas tout ce qu'on est en train de faire qui perd le temps et l'argent et qui fait que la misère du peuple ne fait qu'augmenter.
Merci beaucoup. Alors Félicien, on va prendre notre invité, honorable Laurent Batumona, parce que vous avez évoqué la question sur l'opposition qui ne devait pas aller au dialogue aujourd'hui avec la continuité. Mais le temps, peut-être il y a un auditeur qui nous a rejoint, Olivier qui est à Kinshasa. Olivier, vous êtes avec nous ?
Avec vous, bonjour.
Oui, Olivier, quelle est votre contribution? Est-ce que vous estimez que, comme l'a dit Sylvain, qu'il va falloir doter cette institution des capacités de son indépendance, par exemple?
Tout à fait. D'abord, il faut commencer par mettre en œuvre les animateurs. Il faut installer les animateurs. Voilà maintenant que la CENI a déjà commencé à travailler. Il a déjà avancé. Et donc, il va attaquer les autres provinces qui sont restées. Alors que le président vient d'intervenir il n'y a pas longtemps au Congrès, il demande à l'Assemblée de pouvoir voter une loi organique pour pouvoir instituer cet organe d'appui à la démocratie. Alors, on n'a pas encore installé les animateurs. Pour moi, maintenant, on invite l'Assemblée de pouvoir voter une loi. Donc, il se pose déjà des problèmes. À avoir l'accord ici avec le mécanisme de suivi de l'accord, conformément au mandat qui ont été donnés au Conseil national de suivi de l'accord. Mais les responsabilités sont claires, là, parce que c'est très établi. Pour la nomination du Premier ministre, ça pose problème. Pour la mise en place des animateurs
du suivi de l'accord,
ça pose encore un problème. Au juste, nous sommes où?
Alors, on a des petits soucis avec votre ligne, Olivier. On ne saura pas vous garder le plus longtemps possible. En onde, ingénieur Gaston, vous nous avez également rejoint. Vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Voilà, c'est vrai, bon, il y a eu, certaines personnes estiment qu'il a fallu d'abord en amont qu'on mette déjà en place les animateurs de cette institution pour que eux, à leur niveau, discutent avec la commission PAJ de l'Assemblée nationale pour, en fait, confectionner ou encore élaborer cette loi organique relative au fonctionnement du CENSA. Est-ce que vous partagez cet avis?
Je ne le partage pas. Et j'ai une opinion tout à fait contraire de tout ce qui vient d'être dit ici. Excusez-moi, c'est pas le débat, au sommet des auditeurs.
C'est un débat citoyen.
Voilà. Je ne comprends rien dans tout cet accord. La première des choses, celui qu'on appelle tous les jours les souverains primaires, vous et moi, peuple. Je vous dis, moins de 1% de la population a cet accord en main, sauf peut-être vous et moi. Moins de 1%. La population qui est souveraine ne connaît même pas le contenu de l'accord. Ça, c'est le premier point. En lisant l'accord, j'ai lu plus de 10 fois dedans dans les articles. On dit les acteurs prennent l'engagement de quitter ce président encore. De bonne foi, de bonne foi. J'ai pris le mot bonne foi. Troisième chose, je l'ai dit encore hier, je le répète aujourd'hui. Je n'ai vu aucune mesure contraignante, M. J.R. une mesure contraignante. Je vous donne quelques points qui n'ont pas de mesure contraignante. En cas de désaccord parmi les membres de la CNSA qui font le suivi, qu'est-ce que l'accord prévoit en cas de désaccord? C'est un blocage. J'ai lu à l'article 4.2, les CNSA, le gouvernement et la CNI peuvent unanimement apprécier le temps nécessaire pour le parachèvement des 10 élections. Mmh. Est-ce que vous comprenez ce français-là? Vous avez étudié, M. Zier. Unanimement, vous êtes sûr que nous pouvons nous retrouver dans un cas où toutes ces trois institutions-là, toutes ces trois, ont un même point de vue unanimement. Mais c'est du mensonge, c'est le peuple qui assiste à un théâtre. Vous comprenez, M. Zier, il n'y a aucune mesure contraignante. Comme l'article 5 de la Constitution dit que le peuple, c'est lui le souverain national, c'est lui le souverain primaire. Moi, je pense que s'ils veulent que cet accord soit vraiment suivi par le peuple, comprenez-vous, ne fût-ce qu'un seul article, un seul article, qui dit ceci, en cas de désaccord entre ceci et cela, le peuple se prend en charge. Cet article-là,
se prononce, il par exemple, par référendum.
Parce qu'en lisant, oui, on va parler de consensus en consensus, et tous n'auront jamais un même point de vue.
Voilà.
Il y a un article-là, où on dit, l'article 2, le préambule au chapitre 2, on dit que l'entendement, leur entendement de respecter de la Constitution. L'entendement
oui, s'engage à respecter la Constitution. Oui.
Est-ce que vous êtes sûr que tous les acteurs qui ont été à cet accord peuvent avoir le même entendement? Jamais! Ils n'auront jamais un même entendement du respect de la Constitution. Quand ces gens disent que nous nous sommes dit, le premier ministre vient de l'opposition. Là, on dit que l'article 70 dit que c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Vous voyez? Ils n'auront jamais le même entendement. Et nous dirons des blocages
blocage. Merci
les
beaucoup,
les Congolais qui me suivent en ce moment, s'ils veulent bien qu'il y ait changement dans ce pays, s'ils aiment bien ce pays, s'ils veulent bien aider le chef de l'État à nous aider, ça veut dire nous voulons l'aider à nous aider, ils doivent exiger qu'il y ait même un seul sous-chapitre qui prévoit l'intervention du peuple. Sinon, nous serons les spectateurs en train d'observer les acteurs du théâtre que nous avons nous-mêmes choisis.
Voilà, merci beaucoup Gaston. Vous estimez que, disons, le terme de référence tel que proposé au niveau du débat demeure un peu incomplet. Il va falloir qu'on associe, en tout cas comme nous sommes dans la démocratie participative, nous l'avons dit hier, il faut promouvoir la démocratie participative, il faut prévoir aussi le peuple souverain dans une des dispositions des termes de référence de cette loi organique portant fonctionnement de CNSA. Ou encore dans l'accord, pensez aussi à ces mêmes peuples. Et vous avez pris comme élément de discussion, de votre contribution dans cette émission, le point 8 de ce chapitre 4.2 sur le mécanisme de suivi, où on dit que le gouvernement, la CENI, doivent apprécier consensuellement les temps nécessaires pour les parachèvements des dites élections. Des élections, c'est-à-dire législatives, la présidentielle et l'autre. Et puis, ça vous a un peu compliqué. Merci beaucoup. Arsène, vous êtes à Kikwit, vous gardez la ligne. Nous revenons à vous, notre invité, honorable Laurent Abatoumona. Vous êtes avec nous en ligne.
Oui, monsieur le journaliste.
Voilà, quelle est votre réaction après avoir écouté les uns les autres?
Bon, disons que il y a d'abord, quand l'accord était en train d'être rédigé, nous pensions tous qu'il y aurait bonne foi de part et d'autre, et qu'il y aurait sincérité par rapport à nos partenaires qui sont nos amis de la majorité. Mais au fil du temps, nous avons constaté qu'ils étaient en train de s'éloigner de l'accord. Voilà pourquoi, à mon avis, le chef de l'État a recouru au Congrès pour faire introduire la notion de la consensualité dans la désignation des animateurs du CNSA, principalement son président. Donc je crois que le chef de l'État était en train d'éviter à ce que l'accord soit appliqué. Voilà pourquoi il est allé s'empresser pour s'engouffrer auprès du Congrès et faire accepter cette idée-là. Car cela ne tienne, je crois que même aujourd'hui, le chef de l'État n'a pas encore totalement perdu les contrôles de la population ou du peuple. Il peut revenir à l'accord en sollicitant que la CENCO puisse continuer le travail qu'il est en train de faire.
Voilà, je crois que tout est dit. Arsène va compléter avant que nous revenions à vous pour la conclusion de cette émission. Arsène, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur Julien, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Voilà, Arsène, il y a Sylvain tout à l'heure qui a proposé trois éléments. J'aimerais bien que vous tablez sur ces trois éléments, que le texte doit doter l'institution d'appui à la démocratie, le CENSA, de capacité de son indépendance vis-à-vis des autres. Le CENSA doit doit avoir une représentation nationale, c'est-à-dire partout en République démocratique du Congo. Et puis le CENSA doit jouer le rôle de monitoring hein, à tous les niveaux.
Merci beaucoup pour la parole, JR. Moi, je crois que, quelque part, les Congolais, nous devons chercher un peu, avoir un peu plus sociologique et voir plus juridique. Parce que le juridisme, je crois que ce n'est pas compris par tout le monde. Parce que cette émission que nous sommes en train de faire maintenant est suivie par, je crois, la majorité des peuples congolais. Donc, il faut avoir une tendance de faire expliquer aussi à la population au lieu de faire du tic-tac comme la majorité et l'opposition, et à côté on voit la population qui ne comprend presque rien. La question de CENSA, je crois que c'est une question très importante. Pourquoi très importante? Parce que c'est le CENSA qui doit surveiller tout ce qui doit se passer d'ici les élections. Alors le CENSA doit avoir une assise d'abord populaire. Pourquoi? Parce que ça doit passer par la représentation populaire qui n'est autre que le Sénat et la Chambre basse. Et ensuite, vous devez savoir, et je tire l'attention à tous les intervenants de cette situation, que le dialogue n'est que fruit de la présidence de la République. Parce que c'est la présidence de la République qui a demandé aux évêques de mettre ensemble les politiques
pour trouver les solutions
qu'on pouvait, on peut aujourd'hui discuter. Moi, je préférerais ceci. Je vais proposer que les 33 personnes qui constituaient le débat à la CENCO doivent être toujours ensemble, ou voire même le quorum de plus de 25 personnes, ils doivent accompagner, le Sénat et la Chambre basse dans l'élaboration d'une loi. Et cette loi doit être contraignante. Pourquoi elle doit être contraignante? Parce que ça aura l'appui de la représentation du peuple. Contraignante pourquoi? Parce que nous avons besoin des élections et non des débats inutiles. Nous avons besoin des élections. Parce que,
allez-y Arsène.
Oui, hormis les élections, il n'y a pas une autre solution. On risque même d'aller croire que la résolution du dialogue est au-dessus de la Constitution. Mais ça, c'est une vague idée, c'est une idée qu'il faut jeter. Parce qu'aujourd'hui, c'est en train de créer toute une confusion. Aujourd'hui, on va chercher l'Union européenne ou l'Union africaine pour venir nous trouver des solutions. Pourtant, nous avons déjà eu nos solutions à nous ici. Question de les mettre en application et avoir des possibilités concrètes pour tout le monde.
Merci
voilà
beaucoup.
Un peu ce que j'avais comme idée.
Merci beaucoup, Arsène. Nous prenons Fabrice, le dernier auditeur. Fabrice, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, M. Gilles. Merci d'ailleurs. C'est pour ma première fois de participer à cette émission. Merci beaucoup, en tout cas.
Je vous en prie. Allez-y. Quelle est votre contribution?
Voilà, merci. Je voulais un peu, même si les gens ne veulent pas qu'on se les dise, il faut se dire la vérité. Nous sommes dans une situation d'exception. Donc, la Constitution n'a rien à voir ici dans ce que nous faisons. Parce que quand, même dans le préambule, quand les évêques disent que non, il faut référer à la Constitution pour l'application de cet accord.
Alors, je vais vous aider, Fabrice. Oui, Fabrice, je vais vous aider. Il est dit au chapitre 2.1 que les parties prenantes s'engagent à respecter la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en 2011, et les lois de la République à organiser les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, ainsi que les élections locales en conformité avec la dite Constitution. Voilà.
Mais c'est JR. Oui, attends, la lecture, ça se comprend normal. Mais du point de vue de la pratique, non, ça n'entre pas. On ne digère pas ça. Parce que la pratique est normale. Il est clair que non, le président de la République n'a pas voulu organiser les élections en 2016. Il fallait chercher le moyen, il fallait le faire par force, il fallait l'imposer un peu cette volonté.
Ouais, voilà, je crois que Fabrice, c'est un problème du gouvernement. Donc nous disons dans l'ensemble, le gouvernement s'est expliqué là-dessus clairement pour dire qu'il y avait problème de moyens. Nous sommes arrivés au niveau du dialogue. Aujourd'hui, tous les points ont été dégagés. Je crois qu'on ne va pas responsabiliser tel ou tel autre, mais on sait tout de même qu'il y a cette volonté de pouvoir aller aux élections. Mais que faut-il faire? C'est pourquoi nous avons dit, le CENSA doit-il avoir un carré, revêtir un caractère, revêtir d'un caractère contraignant pour arriver finalement à aider à faire réussir en fait le processus électoral. C'est autant de questions que nous avons pu partager avec vous, les amis, ici et à l'étranger, au travers de cette émission. Merci à vous tous qui avez participé à ce débat. Merci aussi à notre invité, honorable Laurent Batumona, et aussi à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Nico Kalambay était au standard. Dieudonné Nyangasa à la mise en onde de cette émission, coordonnée présentée par J.R. Lungembo, Luabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro.